De la revue de Montreux avec la compagnie MDC pour donner un petit peu de piment également. Et puis quelques guests, ben Cooper et Voldo.
Ah joli. Ah, la tradition familiale.
Voilà. Ensuite, il y aura Faustine Jenny, qui est une superbe chanteuse. Et puis une danseuse de Zurich qui est 2 fois championne du monde et 3 fois, 6 fois vice-championne du monde de showdance, qui nous vient pour faire un joli solo. Et voilà.
Ouais, donc toute une ambiance, on rappelle, hein, pour fêter, c'est le spectacle de l'école du Monte Dance Center, Dance for the World. On imagine aussi que justement cette thématique de danser pour le monde, elle sera présente un petit peu dans les différentes interventions, danser, jouer, chanter.
Oui, il y aura de tout, beaucoup de danse classique, du jazz, du moderne. Du hip-hop, un peu tous les styles, et c'est vrai que de tous les âges aussi, donc c'est chouette, mais c'est pas trop long, ça va bien, parce que des fois les spectacles d'école c'est un peu ennuyant, et là c'est vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de dynamisme justement, avec des plus âgés, des plus jeunes, il y a un petit peu de tout.
Un joli rythme pour justement ce spectacle de l'école du Monte Dance Center, Dance for the World. C'est ce samedi au Crocheton à 14h30 et à 20h, on le rappelle. Par contre, c'est bien de réserver avant, non?
Oui, alors à 20h, c'est presque complet. Il reste encore quelques places pour 14h30, par contre. Les billets peuvent se prendre à l'école de danse de 14h30 à 19h, mercredi, jeudi, vendredi. Après, ce sera fermé. Et après, ça sera sur place, au Crocheton, à la billetterie, 1 heure avant le spectacle.
Voilà. On rappelle donc que le spectacle, c'est ce samedi, 14h30 et 20h. 20h, c'est déjà quasiment complet. Il faut se dépêcher de réserver. Merci Sabine, et puis plein succès.
Merci beaucoup à toi et puis bonne journée à tout le monde.
À très bientôt, bye bye, ciao.
Merci, au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablis, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le Mag, c'est ta région, son actualité, mais aussi son histoire du lundi au vendredi, après le journal de 17h. Et on commence aujourd'hui par de l'histoire et de l'actualité en même temps. Puisque l'Université de Lausanne va lancer une étude sur la commune de Corbérier cet été, qui concernera un bloc de roche situé au lieu dit du plan Falcon. Un endroit bien connu de la commune, puisqu'en 1584, un éboulement majeur s'y est produit. Éboulement qui avait ôté la vie à une centaine de personnes entre Corbérier et Yvorne. Aujourd'hui, aucun risque similaire, mais simplement une curiosité scientifique qui pousse l'UNIL à se questionner sur la présence et la forme de ce bloc. Pour en apprendre un peu plus, Ludovic Turin est allé questionner le municipal de Corbérier, Christian Roubati, en charge des terrains et des pâturages. Il a commencé par situer le lieu de l'étude qui va bientôt démarrer.
On parle des hauts en dessous de Corbérier, en dessous même du hameau de Luon, plus précisément vers l'alpage de Plofalcon. Et on voit vraiment là-bas la paroi rocheuse où il s'était passé autrefois un grave éboulement.
On va y revenir sur ce grave éboulement de 1584 pour être précis, mais peut-être avant ça, nous expliquer comment est venue l'idée de cette étude, Christian Roubati. Vous avez été démarché par l'Université de Lausanne, comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé lors d'une discussion suite à une conférence. L'Université de Lausanne a fait tout un travail sur cet éboulement de Lovaille et ils sont venus présenter leur travail à Corbérier en demandant si ça nous intéressait. Il y a eu un très grand intérêt parce que la salle communale était complètement bondée, était pleine. Il y a eu beaucoup de questions et autres. Et à la suite de cette séance, j'ai parlé de certains glissements de terrain que j'ai constatés ces dernières années, mais des glissements très superficiels. Suite à ça, ils se sont dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de poursuivre des études. Finalement, on a étudié que la partie historique, mais ça serait peut-être intéressant de vérifier d'une manière géologique, sismique, comment évolue cette région.
Alors la partie historique, vous l'avez rapidement mentionné, Christian Roubati, c'est cet éboulement qui est bien connu en tout cas des gens d'ici d'Yvorne, de Corbérier, c'est cet éboulement dit de Lovaille qui s'est produit en 1584, donc un petit peu moins de 500 ans aujourd'hui, qui a eu quand même beaucoup de répercussions, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de casses. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1584.
Alors en 1584, le 1er mars par rapport à notre calendrier, ou le 11 mars à l'époque, le calendrier grégorien, il y a eu en fin de matinée un premier tremblement de terre. Après, il y a eu plusieurs répliques, dont une le 4 mars. En plus des tremblements de terre, il y a eu une période de très grosses précipitations. Donc tout le terrain était gorgé d'eau et il y a eu au moins 4 répliques de tremblements. Et le 4 mars, un grand bout de la paroi de la montagne est parti, avec énormément de masses de boue, de terre et de matériaux, qui ont enseveli une partie de Corbérier et surtout une grosse partie d'Yvorne.
On peut encore le voir, hein, ce cône de déjection de gravats qui arrive de la montagne et qui est lié directement à cet épisode de 1584. C'est quoi le lien aujourd'hui, Christian Roubati, entre cet épisode et l'étude qui est actuellement mise en place par l'Université de Lausanne ?
Alors le lien, c'est justement d'étudier un peu l'évolution de cette zone qu'on appelle l'Ovaille. Donc Ovaille viendrait, semble-t-il, d'un ancien mot patois, Orvaille, qui signifierait soit catastrophe, soit éboulement. C'est un peu maintenant de suivre quelle est l'évolution d'un terrain qui a connu une catastrophe ancienne, voir comment il réagit aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'UNI qui a décidé d'étudier ce point. Il n'y a pas du tout actuellement de risque et de danger. C'est par curiosité intellectuelle et puis pour mieux connaître l'évolution d'un tel site.
Mais vous le dites, hein, en 1584 déjà, il y avait eu une météo capricieuse. Cette année, cet hiver, on a aussi connu un hiver, en tout cas avec de fortes précipitations. On a vu beaucoup d'éboulements, on a vu beaucoup d'inondations aussi. Les nappes phréatiques sont remplies. Ça joue aussi avec cet hiver particulier de lancer cette étude ?
Non, parce que ça avait été décidé, la séance avait eu lieu avant. Alors il est bien clair que des hivers difficiles comme cet hiver sont propices à plus d'éboulements et comme ça, mais vraiment l'étude n'est pas liée à un danger, à une crainte. Les habitants de Corbérier et d'Yvorne peuvent dormir tranquillement. C'est vraiment un intérêt scientifique de connaître l'évolution de cette zone.
Et puis, évidemment, vous n'êtes pas dans l'étude scientifique, Christian Roubati, mais en quelques mots, si vous le savez, comment va se dérouler cette étude ? C'est quoi les points d'ancrage précis qui vont être étudiés durant cette analyse ?
Alors, le premier point qui va être installé cette année, c'est un sismographe qui va être installé sur la zone de Plan Falcon, l'endroit un peu où s'est déclenché l'éboulement, pour mesurer tous les mouvements de terrain, ces informations que cherche l'Université de Lausanne pour voir comment évolue ce genre de terrain.
On l'a dit, vous êtes municipal ici à Corbérier. Il y a un lien avec l'exécutif communal, Christian Roubati, avec cette étude. Comment vous collaborez avec l'Université de Lausanne ? Est-ce qu'il y a déjà une collaboration ou est-ce que l'Université de Lausanne est assez indépendante ?
Alors, l'Université de Lausanne est totalement indépendante. C'est uniquement ce contact que nous avons eu lors de cette séance qui a intéressé la population. Et suite aux discussions, ils ont décidé de mener cette étude. Nous, on n'est là que comme facilitateur pour les accès, pour différentes choses, mais on n'est autrement pas directement impliqué dans l'étude.
Et puis, tout dernier mot, Christian Roubati, peut-être un mot sur le temps que ça va prendre, cette étude. Est-ce qu'il y a déjà une prévision ou est-ce que, pour l'instant, pas d'informations à ce sujet ?
Alors, pour le moment, je n'ai pas reçu de planning. J'ai reçu uniquement des informations par rapport à des demandes d'accès vers l'alpage pour aller installer le sismographe. Mais je ne dispose pas plus d'infos, savoir si l'étude va dérouler sur plusieurs années ou si c'est en termes de mois ou d'années, ça j'ignore.
Mais on se réjouit quand même de voir les résultats. C'est quelque chose qui intéresse les gens, c'est quelque chose qui passionne aussi.
Oui, c'est quelque chose qui ici passionne assez les gens parce que cette grande catastrophe de l'époque, même si c'est très ancien, est restée gravée dans le paysage ici et à quelque part dans l'inconscient collectif. Ça fait partie du territoire, si on veut, et de nos communes.
Et notez que vous pouvez réentendre cet entretien en replay sur notre site internet radiochablais.ch.
Radio Chablais, programme de nuit.
On continue ce mag avec de la verdure et du printemps, puisque cosmologiquement, c'est plus l'hiver, même si la météo essaye de nous faire croire le contraire. Si tu es amoureux ou amoureuse de plantes et de nature, on te donne rendez-vous ce week-end à l'abbaye de Sala à Aulon pour les bucoliques. Depuis 2014, le dernier week-end d'avril est en effet synonyme de début de saison des plantes dans les jardins de l'abbaye. Et c'est entre conférences et ateliers que les visiteurs auront de quoi échanger dans un esprit convivial. Voilà, le décor est planté. Jeu de mots.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et puis, c'est des gens qui sont tous passionnés par leur métier, ils sont tous spécialisés, chacun dans leur domaine. Et voilà, l'idée, c'était d'amener le public vers ces gens.
Et d'ouvrir le dialogue, bien évidemment, sur le monde des plantes, des jardins. Et ça, c'était, et c'est toujours la volonté de base des bucoliques.
Oui, alors effectivement, c'est un plus. C'est de, par cette manifestation, de pouvoir amener des conférences, des ateliers, amener une sensibilité sur une façon de cultiver son jardin.
Et comme chaque année, il y a un thème. Et cette année, c'est l'eau. Ça tombe bien, on en a eu pas mal ces jours. Mais on va pouvoir s'interroger, se questionner sur cette thématique-là.
Oui, exactement, c'est l'eau. Effectivement, j'ai pensé à ça parce qu'on a eu deux années très sèches, chaudes et très sèches en Suisse. Donc je me suis dit, ce serait pas mal de prendre l'eau comme thème. Depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Ça, c'était pas prévu, mais bon, voilà. C'est un petit peu, on voit un peu les déséquilibres auxquels on risque d'être soumis dorénavant. Et puis l'année dernière, j'ai eu connaissance d'un peuple premier d'Amérique latine, les Kogi, qui viennent de Colombie et qui sont venus en Suisse parce que ils avaient le désir de connaître le Rhône. Et puis je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'un peuple qui vienne d'aussi loin ait envie de connaître un fleuve. Enfin, le Rhône, c'est un grand fleuve d'Europe, mais enfin quand même, quoi. Je me suis dit, comment, pourquoi? Et puis on aura la chance d'avoir deux des scientifiques qui ont accompagné cette délégation, qui viendront nous faire un témoignage en images de ce voyage au fil du Rhône avec les Kogi.
Pourquoi c'est important de partager ces philosophies par rapport à, alors, cette thématique de l'eau, mais surtout par rapport au monde végétal?
L'eau et le monde végétal, c'est tellement lié. Enfin, et nous, en Suisse, on est quand même très privilégiés. On a beaucoup d'eau, on a des glaciers, on a des montagnes, on a des fleuves et des rivières. Donc, on a de la végétation facilement. Mais on se rend compte qu'il suffit de quelques mois de sécheresse et tout peut être chamboulé. Donc, c'est vraiment, l'eau, c'est vital, quoi.
Donc il y a aussi une volonté peut-être de sensibilisation du public au travers de ces bucoliques.
Oui, il y a toujours une volonté de sensibilisation. Chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, c'est celui-là. Et puis pour revenir aux Kogi, donc à ce peuple premier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un regard tout à fait différent du nôtre sur les éléments de la nature. Et je trouve que c'est toujours intéressant de partager ça, parce que ça peut nous aider, nous aussi, à changer de regard et éventuellement... avoir des attitudes qui sont plus positives.
Est-ce que vous avez constaté aussi une évolution du public ou des publics qui viennent ici au Bucolique depuis 2014?
Oui, j'ai constaté un changement. C'est-à-dire, au début, toutes ces thématiques, parce qu'on a eu on a eu la permaculture, on a eu la biodynamie, on a eu la géobiologie, c'était des choses un peu nouvelles. Et puis... ça faisait un petit peu rigoler. Et puis maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, maintenant, c'est des pratiques qui sont vraiment passées dans la vie courante. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît, tout le monde a envie d'essayer, de faire mieux. Donc, je vois vraiment une différence.
On rappelle donc les bucoliques, c'est ici à l'abbaye de la Sala. C'est les 26, 27 et 28 avril. Donc on invite les gens à venir vous faire un petit coucou, tout simplement.
Oui, merci beaucoup. Et puis, vous avez toutes les informations sur le site aussi, Internet. C'est www.lesbucoliques.ch. Vous pouvez venir aussi en transport public. Enfin, tout est noté sur le site.
Il y a tout ce qu'il faut. Martine Cardozo, merci beaucoup. Et on rappelle donc que vous êtes la fondatrice des Bucoliques ici à l'abbaye de la Sala. Merci beaucoup et plein succès à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On termine ce mag par un joli projet de culture qui cherche à mettre en avant son propre peuple à travers un événement qui aura lieu ce soir à la bibliothèque de Vionnet. Deux Vionnet-Roux vont en effet dévoiler leur premier ouvrage lors d'une soirée littéraire. Au programme, un roman en nous plongeant dans la classe ouvrière britannique et un recueil de témoignages sur le thème du suicide assisté. Julie Gay est allée à la rencontre de l'un des deux auteurs, Olivier Leclerc, pour parler de son premier roman intitulé I'm a Boy from Liverpool. Je crois qu'on dit I'm a Scouse ou a Scouse du côté du Merseyside et avec accent. Il était accompagné de la responsable de la bibliothèque communale de Vionnet, Marisol Mario. On l'écoute au micro de Julie Gay.
Pour la bibliothèque, c'était une évidence d'inviter ces deux auteurs qui sont locaux et de leur donner la parole à la bibliothèque. On est une institution culturelle, on trouve évidemment les livres à la bibliothèque, et d'avoir des auteurs et de pouvoir partager en fait leur aventure sur ce chemin de l'écriture, je trouvais très intéressant pour nos lecteurs.
Alors, une rencontre avec deux auteurs, Émilie Amé-Cornu, on en parlera en fin d'interview avec vous, Marisol, et vous-même, Olivier Leclerc. Vous avez publié il y a un mois, sauf erreur, votre premier livre. Il s'intitule « I'm a boy from Liverpool ». Alors, avant de se plonger dans le livre, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture de ce premier roman ?
C'est une idée qui trotte depuis plusieurs années, on va dire, avec toujours ce syndrome, c'est mon syndrome de la page 30. À chaque fois, m'arrivait de jeter bêtement les 30 premières pages en me disant « c'est pas bon, je vais pas y arriver ». Et un jour, ça a pris, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit peu plus de temps à disposition, ou tout d'un coup, des idées nouvelles. C'est aussi à force de lecture, je me suis dit « tiens, pourquoi pas essayer une fois de faire comme mes écrivains fétiches, d'essayer d'approfondir vraiment le projet, quoi ». Et donc, c'est comme ça que c'est venu.
Et le résultat est là, le livre devant nous. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ?
C'est l'histoire d'un Montaisan, on va dire un trentenaire Montaisan qui n'a pas une vie extraordinaire, qui travaille, qui lui permet de vivre. Il vient de quitter le foyer, on va dire, de ses parents. Et il zone un petit peu en ville les week-ends, la semaine. Et tout d'un coup, il décide de partir en vacances, de se changer les idées. C'est pas trop un adepte des grandes vacances, mais il se met à rêver de sable fin, de météo clémente, on va dire, en ce mois d'octobre. Il se prend l'idée de partir en vacances subitement, prendre un last minute, parce que bien sûr, il fait tout à la dernière minute.
Et puis, il va atterrir finalement à Liverpool ?
Oui, ça se passe pas comme il veut. Réservation de dernière minute qui ne se déroule pas comme prévu. Et je veux pas trop en dire plus, parce qu'après...
C'est-à-dire, il faut donner aux auditeurs l'envie de lire cette immersion de ce jeune Valaisan dans un endroit qui lui est inconnu. Comment vous avez procédé pour l'écriture ? Ça vient totalement de votre imaginaire ? Vous avez un lien particulier avec Liverpool ? Comment ça s'est passé ?
On va dire un lien particulier avec Liverpool ? Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça fait partie des endroits que j'aime bien, en tout cas en Europe, hein, notamment les îles britanniques, que ce soit les différents pays qui la composent. Mais non, ça m'est venu comme ça, de différents voyages, d'expériences. Après, ce qui lui arrive... À part, on va dire, les choses un petit peu trop glauques, mais autrement, toutes les visites et tout, oui, c'est des visites que j'ai faites, et c'est pour ça que j'en parle avec une précision moyenne, on va dire, quand même. Mais oui, c'est des endroits que j'ai déjà visités, ouais.
Alors, écrire un roman, a fortiori, quand c'est le premier, c'est un long chemin, et ça vous a pris un an environ. Le processus de création, comment ça s'est passé ? Vous avez de gros défis, c'est quand même compliqué à écrire un roman.
Oui, alors c'est pas forcément super simple, parce qu'on se dit toujours qu'on écrit comme on a envie, mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut dire que j'ai été quand même bien aidé par Joachim Turin de Murat, qui en est pas à son premier pour sa part. Il en a déjà fait quelques-uns dans la région, donc il m'a donné des petits coups de pouce. Il m'a donné quelques contacts aussi, et puis aussi j'avais aussi des feedbacks avec Marisol et la bibliothèque de Viona, qui m'ont aussi bien écouté lorsque j'avais des doutes ou des questions, qui m'ont aussi bien rassuré.
Des conseils de l'entourage, de la bibliothèque, de M. Turin. Pourtant, les écrivains et écrivaines, ils ont quand même leur propre manière d'écrire, hein, leur plume un peu singulière. La vôtre, c'est laquelle, si vous pouvez décrire votre style d'écriture ?
Ça fait déjà drôle de parler de style d'écriture, mais alors c'est plus dans l'action, on va dire, où c'est vraiment l'instant présent. Tout se passe au présent, donc c'est vraiment, on est en immersion avec la personne. En fait, il raconte ce qu'il voit à l'instant présent, donc il n'y a pas de passé ni de futur. C'est vraiment, on va dire, un peu comme dans une série Netflix, ces caméras embarquées. On est un petit peu dans ce style-là.
Ça, c'est à titre personnel, on va dire. Je regarde beaucoup les titres de livres. Est-ce que ça a été une évidence pour vous dès le début, ou il vient par après, en écrivant les dernières lignes du bouquin, « I'm a boy from Liverpool », le titre, en quelques mois ?
Comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de ce personnage qui va un petit peu à contre-cœur dans cet endroit-là. C'est pas là-bas qu'il s'imaginait passer ses vacances. En allant à contre-cœur, au fil de l'histoire, il se rend compte qu'au final, bah oui, tiens... ça va devenir un enfant de la région et qu'il va peut-être trouver son, entre guillemets, son endroit sûr, son endroit à lui, qui va tout simplement devenir, comme le dit le titre, un enfant du coin, quoi.
I'm a boy from Liverpool, c'est un livre à découvrir ce soir en soirée littéraire à la bibliothèque de Viona. Marisol Mario, une autre autrice sera présente ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes qui est-elle et qu'est-ce qu'elle présente ?
Nous aurons aussi Émilie Amé-Cornu qui a écrit « Libre et léger comme des papillons ». C'est un livre totalement différent parce que le livre d'Olivier est un roman, je qualifierais d'un roman social, et le livre d'Émilie est un témoignage. On retrouve en fait 12 témoignages qu'Émilie nous partage avec sa sensibilité, son ressenti, sa bienveillance, son humanité, mais surtout son pathos. Et c'est des témoignages par rapport à son activité qu'elle fait depuis 5 ans. Donc elle est accompagnatrice de personnes pour le suicide accompagné.
Émilie Hamet-Cornu et Olivier Leclerc, du coup, sont à découvrir ce soir et leur livre également. Comment la soirée, pour celles et ceux qui seraient intéressés à participer, comment elle sera articulée cette soirée?
La soirée se déroulera en interview croisée entre les deux auteurs. La modération se fera par ma collègue Thérèse. Et puis, à l'issue de la rencontre, il y aura bien sûr les questions des personnes présentes et puis les dédicaces et un verre de l'amitié.
À noter que cette soirée littéraire débutera à 19h30 ce soir à la bibliothèque communale de Viona. Entrée libre.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Bon, aujourd'hui, on souffre un petit peu des aléas du direct. Notre invité n'est malheureusement pas arrivé ici. Je pense qu'il veut pas sortir parce qu'il fait trop froid. Et je le comprends parfaitement. Du coup, c'est moi qui suis sorti. Et là, je me trouve à Morgin à l'occasion du Tour du Chablais, 4e étape. La course des mini a déjà terminée. Et là, c'est gentiment la course des écoliers qui va commencer. Alors les enfants, vous êtes sur Radio Chablais, comment ça va? Il fait froid, hein? Du coup, on va courir plus vite pour avoir chaud. Et à part ça, vous êtes magnifiques, tous de la même couleur. On va faire un truc, c'est que quand vous revenez après, vous revenez vers moi pour me donner votre temps. Ça marche? Ok. Ouais, un peu moins déjà. Courez, profitez, amusez-vous. Et on vous retrouve à la sortie. Sinon, ici, j'ai mon cher speaker ici à côté. Sébastien, Imesh. Dis donc, ils sont courageux, ces petits.
Ils sont à fond. Et quand je vois le temps, la température, chapeau à eux parce que franchement, ils sont super motivés.
Alors pour expliquer, il neige et pas qu'un peu, et il neige depuis 4h l'après-midi. Donc il neige depuis un moment, il fait monstre froid. Toi qui as des gants, t'es gelé.
Oui, on est en direct là?
On est en direct.
Pardon, excusez, faut pas trop que je dise de bêtises alors. Oui. Oh,
t'es avec moi, tu peux.
Oui, alors effectivement, il neige. Et quelqu'un me posait la question avant, c'est quand la dernière fois qu'il a neigé sur une étape du Tour du Chablais? Ça doit faire vraiment je sais pas si c'est possible, si c'est déjà arrivé une fois en fait.
Arrête, t'es sérieux?
Ouais.
Donc on est en train de vivre une grande première potentiellement?
Voilà, mais comme j'ai dit avant, le soleil dans nos cœurs, il fait toujours beau au Tour du Chablais.
Ouais, et en plus on sait que c'est dans l'effort que la récompense est plus belle. On souhaite un heureux et vraiment une bonne course à tous ces bambins. Et après, ce sera au tour des adultes. Là tout de suite, on va faire une petite pause et on va revenir juste après.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
On est toujours en direct de Morgin à l'occasion de la 4e étape du Tour du Chablais. Et il fait froid. Je suis avec Cyril. Cyril, tu es un coureur. Salut.
Salut.
Toi, tu t'habites pas ici. Tu es morginois?
Je suis dans Trentoran, ouais.
Tu es à Trentoran, mais t'habites où en ce moment?
San Diego.
T'es venu exprès pour la course ou bien?
Pas tout à fait, mais presque, ouais.
Il fait quel temps à San Diego maintenant? Fais-nous rêver.
Ouais, il va faire 28, ce gros soleil.
Ah ouais?
Super quoi.
Donc toi t'es venu vraiment pour l'amour du sport et de la famille, j'imagine un petit peu aussi, t'as de la famille dans le coin?
Exactement, ouais. Moi j'ai grandi ici jusqu'à mes 20 ans, ouais.
Et puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette course précisément aujourd'hui avec les pelleux qui sont en train de tomber parce qu'il neige?
Moi j'avais fait cette course depuis 2002, quand j'avais 12 ans, puis après quasiment toutes les années jusqu'en 2012, je pense. Donc vu que j'étais dans le coin, puis que ça... Par pure chance, je me suis dit, ok, pourquoi pas.
Un petit souvenir, en fait, de l'époque où tu étais plus jeune et puis où tu faisais cette course, t'en ratais pas une, en fait?
Exactement, puis j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont là aujourd'hui, on est au moins 4 ou 5 à courir.
Arrête! Donc c'est un truc qui se fait en famille aussi?
Ouais, entre les cousins, la copine de mon frère, tout ça, quoi.
Et puis c'est quoi l'ambiance, justement, que pour les coureurs, en fait? Qu'est-ce que vous avez comme sensation de courir à la maison et puis de se faire plaisir comme ça?
Bon, ça fait un moment que j'ai pas couru à la maison, donc ça fait plaisir de revenir faire cette course. Sous la neige en plus, j'aime bien la neige, donc c'est...
T'es servi ce soir?
Exactement, ouais. Non, mais je fais pas mal de courses à San Diego aussi, puis j'aime bien cette ambiance de courir avec du monde autour, et puis...
Et puis c'est quoi le truc? À chaque fois qu'il y a une course, c'est quand même la fête. On vient faire du sport et puis on fait quand même la fête. C'est quoi ce délire?
Ouais, comme j'ai dit, il y a du monde, il y a la famille, on veut se donner un peu, mais on fait... Après, c'est aussi pour être avec des gens et puis discuter... Voilà, et puis passer un bon temps après la fête, après la course aussi.
C'est parfait. Cyril, je vais te laisser continuer de chauffer parce que je veux pas que tu refroidisses avec la température qu'il fait. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous pour cette petite interview. Et puis, sérieux, force à toi.
Merci beaucoup.
Allez, bonne course à tout le monde. Sérieux, ils sont courageux. Il neige de plus en plus, les amis. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Et les gens, ils ont quand même le smile. Ils sont là vraiment volontairement. Tu vois qu'ils sont pas obligés. Et ben, moi, je salue cette prestation-là parce que rien que le fait de dire aujourd'hui, je sors de la maison, ça mérite une médaille. Ils en méritent tous au moins, et toutes au moins des dizaines. Des plus petits, parce que je rappelle qu'il y a eu des courses mini. Il y a eu des courses écoliers qui viennent partir et ce sera bientôt le tour aux adultes. Bref, là, on a gentiment terminé cette deuxième partie et on va profiter de ces flocons qui nous tombent dessus et de ce moment unique de la neige autour du Chablais. À ce qui paraît, c'est la première fois.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
La situation en Haïti, on le sait, est dramatique. On présentera justement un point de vue haïtien d'ici quelques instants. Des Chablaisiens ont décidé d'aider quelqu'un de leur famille, justement, qui se trouve en Haïti. Ils ont eux-mêmes, nos Chablaisiennes et Chablaisiens, besoin d'aide. Papillon Coaste, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez contacté il y a quelques jours de cela parce que vous faites actuellement ce qu'on appelle un crowdfunding pour aider quelqu'un de votre famille qui se trouve là-bas. Expliquez-nous le contexte.
Ce crowdfunding, c'est pour aider ma nièce et sa famille qui sont en Haïti. Ma sœur et moi, on est nés en Haïti et on a grandi en Suisse. On a été adoptés, donc on a eu cette chance de pouvoir grandir dans cette magnifique région du Chablais. Et maintenant, la situation depuis plusieurs temps en Haïti est très compliquée. Et notre nièce et sa famille ont perdu leur maison. Ça fait déjà plusieurs mois, c'était en décembre dernier. À cause des gangsters, c'est eux qui font la loi dans la capitale. Et il se trouve qu'ils prennent les maisons et se servent à volonté car il n'y a pas de gouvernement et de police en place. Et maintenant, on a fait un crowdfunding, donc on voudrait lever 10 000 francs pour pouvoir reconstruire une maison pour ma nièce. Donc ce serait une maison qui serait pas la capitale, mais plus dans le sud, car la situation est un petit peu plus apaisée et tranquille dans le sud de l'île.
Ouais, justement, vous nous rassurez, Papillon, en nous expliquant le but, c'est d'aider votre nièce et toute sa famille à pouvoir se reconstruire, reconstruire une maison, reconstruire une vie, mais pour l'instant, loin de Port-au-Prince, où la situation est chaotique.
Exactement, c'est ça. Là, ils sont chez des amis déjà dans le sud, mais ils ne peuvent pas rester indéfiniment. Donc on a décidé avec eux et notre famille en Suisse de faire un crowdfunding pour les aider.
Alors justement, comment on peut vous aider, Papillon Coast, comment on trouve les références pour ce crowdfunding?
Alors c'est tout simple. Pour ça, il faut se rendre sur la plateforme We Make It, sur le site internet. Et dans la barre de recherche à droite, il faut marquer une maison en Haïti. Ça, c'est le nom de notre projet. Donc une fois que vous avez simplement tapez ce texte, une maison en Haïti, vous tombez sur notre projet et vous pouvez le soutenir. Donc on a différentes actions pour le soutenir, tous les dons sont les bienvenus et vous pouvez verser la somme que vous voulez. Et en contrepartie, bien sûr, on va vous tenir au courant du projet et vous informer par photo. Donc on aura notre famille, ma nièce en Haïti, qui vous tiendront au courant en prenant des photos, l'état d'avancement de la maison et du projet en général.
Donc on le rappelle, une maison en Haïti sur wemakeit.com, très facile à trouver. En plus, tout est expliqué correctement. Papillon Coas, merci beaucoup. On va retrouver un contact d'ici quelques instants que vous nous avez donné pour nous expliquer un peu plus en détail la situation en Haïti. Merci en tout cas et bravo, plein soutien à vous. Il reste quelques jours pour soutenir ce projet. On se dépêche d'aller sur wemakeit.com, une maison en Haïti. Merci Papillon.
Merci à vous, bonne journée.
Sur le grill.
Et pour Radio Chablais, programme de nuit.
Sur le grill.
Des Chablaisiens qui veulent soutenir leur nièce qui vit toujours en Haïti, c'est le sujet qu'on traite ce matin, l'occasion de parler de tout ce qui se passe malheureusement dans ce pays ravagé qu'est Haïti. Une maison en Haïti sur wemakeit.com, il vous reste encore quelques heures, quelques jours pour soutenir cette action. On a besoin de vous pour construire cette nouvelle maison pour cette famille dont une partie de la famille habite ici dans le Chablais. On parle justement d'Haïti avec Frisnel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même, vous êtes ici à Bruxelles, là on vous appelle. On vous appelle vous parce que vous êtes bien au courant de la situation puisque vous êtes entre Haïti et l'Europe régulièrement. Expliquez-nous la situation actuellement à Haïti, Port-au-Prince et autres.
Effectivement, je m'appelle Frisnel Zarak et je vis à Bruxelles depuis presque 10 ans. Et depuis, j'ai fait l'aller-retour entre Haïti et Bruxelles. Je suis de près la situation. Récemment, on a fait une distribution de matériel scolaire aux gens qui sont déplacés grâce à l'aide de papillons et tout, de nos amis suisses. Et effectivement, la situation des Haïtiens, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ont fui la violence des gangs. Donc, il y a beaucoup de déplacés. Les médias parlent de 100 000 déplacés. Les gens ont abandonné leur domicile. Ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Donc, ce sont des femmes, ce sont des enfants qui sont en situation de viol. Donc, vous pouvez imaginer des enfants, des femmes dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans un pays où il fait noir, dans un pays où il n'y a pas d'armée, dans un pays où il n'y a pas de policiers.
Ouais, donc, une situation vraiment dramatique, hein, on l'a dit. Oui. Et, le gouvernement qui n'existe plus, les procédures de sécurité, que ce soit l'armée ou la police, vous l'avez dit, qui n'existe plus non plus. On a envie de soutenir ce projet dont on parlait avec Papillon tout à l'heure. Il faut rappeler aussi que justement, tout ce qu'on parle là, c'est principalement dans la capitale Port-au-Prince. Mais pour nous rassurer, si on soutient ce projet de la nièce de Papillon, c'est parce qu'elle va se déplacer dans une autre région où là, c'est encore à peu près viable, rassurez-nous quand même.
Mais c'est à peu près viable. La situation, c'est à Port-au-Prince. Donc les gens qui sont déplacés, ce sont des gens qui sont traumatisés. Donc qui ont besoin. En fait, quand les gens sont traumatisés, ils ont quand même besoin d'être en sécurité. Être en sécurité, c'est avoir un hébergement. Donc les gens ne peuvent pas continuer à être dans la rue comme ça. Il faut qu'ils soient en sécurité. Il faut qu'il y ait aussi, on va dire, des activités, des liens, des activités socioculturelles, comme par exemple des activités sportives. Oui, bien sûr, les gens ils vont à Corail. Corail, c'est vraiment là où Papillon est né. C'est là où je suis né aussi. Donc voilà, je pense que c'est un endroit plutôt sécur, quoi.
Alors, on refera un point bientôt avec vous pour un petit peu voir. On espère d'ailleurs vraiment que la situation évolue un jour positivement en Haïti. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour votre pays, on le rappelle, Haïti. Et bravo à toute l'équipe de Papillon, à la famille aussi. On rappelle le We Make It, donc, wemakeit.com, une maison en Haïti, des Chablaisiens qui décident d'aider leur famille là-bas pour essayer, tant que faire se peut, de refaire leur vie. Merci d'avoir été avec nous.
Et merci, bravo aussi à Papillon et à Marie-Jo, en fait, pour tout ça, en fait.
À bientôt, bon courage.
À bientôt, au revoir. C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On est descendu qu'un tout petit peu. On se trouve dans un endroit de recueillement, c'est pour ça que je parle doucement. Le nombril du monde, c'est toujours Colombé. Emmanuel, mon très cher guide, où est-ce qu'on se trouve ?
Alors, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombé. Alors, quand, étant gamin, j'avais été à l'école ici, et puis on était très curieux, puis on est toujours guigné, parce qu'on disait qu'il y avait un gisant dans la crypte. Et puis, jamais t'étais non plus loin au niveau historique et tout. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Sœur Gilberte qui va pouvoir nous renseigner. Alors, je passe la parole à Sœur Gilberte.
Sœur Gilberte, bonjour, merci de nous accueillir ici.
Bonjour. Oui, alors, nous, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombay. Et c'est un beau lieu, un lieu frais que nous aimons fréquenter l'été.
Sans blague, c'est vrai qu'il est très frais.
Il est très frais. Et dans ce lieu, donc les sœurs, ils sont au monastère de Colombay depuis 1647 et ce fut le premier lieu de sépulture des sœurs ici. Et puis les sépultures ont été transférées au cimetière du monastère, il y a même plus d'une cinquantaine d'années. Et maintenant, c'est une petite chapelle qui est sous la grande chapelle du monastère. Et qu'est-ce qu'il faut vous dire ? Nous avons les ossements de notre réformatrice Louise de Ballon, dont faisait allusion Emmanuel tout à l'heure, voilà. Donc, mais ce n'est pas le corps, il y a seulement quelques os, et le corps a été reconstitué avec les membres en cire et l'habit religieux.
D'accord, donc c'est ça en fait, c'est ce que vous veniez voir ici en étant gamin, ce qui suscitait votre curiosité.
Voilà, on reste à l'extérieur, puis on est dans Guigné, ça, pendant la création. Mais toujours avec la curiosité, bon, on ne savait pas ce que c'était, quoi.
Naturellement, la curiosité d'un enfant, et en même temps, on revient à la pierre, parce que monsieur Gaulet, ici présent, est un amoureux du caillou d'ici, de Colombey. Et là, on a construit, en fait, ce monastère sur un rocher.
Oui, le monastère est vraiment construit sur la pierre. Il y a très peu de fondements, à part une cave, mais c'est vraiment construit sur le rocher.
Et là, il est apparent. Donc, on a une toute petite voûte qui monte à quoi ? 2 mètres, 2 mètres 50, même pas ?
2 mètres, oui, oui.
Et puis, on a l'hôtel en face de nous, et à gauche de l'hôtel, là, on voit vraiment le rocher sur lequel est bâti.
Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais juste préciser que cette chapelle a été réaménagée et consacrée à Notre-Dame de la Paix. Donc, une Notre-Dame qu'il faut prier ses temps, lorsque le monde est si bouleversé. Alors, je voulais juste dire que nous avons cette intention de porter dans une intention de la paix dans le monde.
Eh ben, c'est pas la plus mauvaise des intentions. Bien au contraire, effectivement, Sœur Gilberte, j'ose m'approcher de l'hôtel.
Bien sûr.
Et l'hôtel qui est fait en marbre de Colombey, c'est-à-dire en calcaire.
Marbre de Colombey. Oui, comme les grands escaliers qui montent à la chapelle.
Voilà, ben, on y revient toujours.
Et bien sûr, cette rencontre, vous la retrouvez en podcast sur radiochablais.ch.
Radio Chablais,
le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es dirigé vers la salle de bain et d'un geste machinal, tu prends ta brosse à dents, sans même y penser, tu ouvres le tube dentifrice et tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents. Mais avant de commencer à te laver les dents, tu allumes le robinet ou pas ? Est-ce que tu humidifies ta brosse ou pas ? Et en fait, ça dépend des personnes. Certains la mouillent avant de mettre le dentifrice. Quant à d'autres, en fait, ils mettent d'abord le dentifrice puis après ils la mouillent. Mais la question fait débat, semblerait-il. Est-ce qu'il faut ou pas mouiller sa brosse à dents ? Alors, selon mon dentiste, il ne faut pas mouiller sa brosse à dents avant de se laver les dents, parce que ça assouplit trop les poils et que le brossage ne sera plus aussi efficace que s'il était bien sec. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'études, semblerait-il, qui corroborent cette explication. T'as d'autres spécialistes qui vont te conseiller de mouiller la brosse à dents avant de mettre le dentifrice, pour avoir une bonne hygiène dentaire et pour avoir une bonne haleine. Alors, franchement, j'ai envie de vous dire qu'on s'entend un peu, mais en gros, on ne sait pas vraiment ce qui... Voilà, il faut mouiller, il ne faut pas mouiller. Donc du coup, faites-le selon votre envie, tout simplement. Et j'ai aussi entendu dire qu'il est préférable alors de ne pas mouiller sa brosse à dents avant de mettre le dentifrice, pour pratiquer un brossage plus efficace, et voilà, quoi, c'est pourquoi pas. Mais que la salive, en fait, elle est suffisante pour humidifier la brosse à dents. Voilà, je ne sais pas. Franchement, on n'a pas de réponse, c'est des grandes questions qui nous traversent, mais certains dentistes disent une chose, d'autres disent autre chose, donc en fait, faites comme vous avez envie, le but c'est quand même de se laver les dents si vous avez mangé. Par contre, une fois le brossage terminé, il faut bien rincer la brosse à dents, ça c'est sûr, pour éviter qu'elle soit toute sale, et puis il faut la garder, semblerait-il, tête en l'air, pour qu'elle sèche correctement, sans qu'elle développe des bactéries, il faut éviter de la coller contre les autres. Voilà, maintenant vous saviez peut-être tout sur la brosse à dents sans vraiment savoir, vu qu'on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette question, elle divise, mais en même temps, c'est pas très important. Par contre, après le brossage des dents, là, il y a une chose qui est certaine, il faudrait pas se rincer la bouche, parce qu'il semblerait que, comme dans le dentifrice, il y a du fluor, il faudrait le garder quelque temps dans la bouche pour renforcer l'émail. Alors que si on se rince tout de suite la bouche, ça stoppe en fait l'effet de ce fluor. C'est la seule chose que je peux vous garantir. Quant à la question initiale, pas de réponse, faites comme bon vous semble.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Les bons plans.
Où ?
Sur Radio Chablais.
Ah,
voilà, voilà.
On parle du Tour du Chablais avec Yvan Vuillamo. Salut Yvan.
Salut.
Alors aujourd'hui, ça va piquer un peu plus. On est à Morgin et ça risque de grimper quelque peu.
Ça va piquer un tout petit peu plus, en effet. Donc la semaine dernière, on était à B. Et cette fois, à Morgin, il y aura 1 km de moins à parcourir, 7,5 km, avec par contre 50 mètres de dénivelé ou plus, donc à peu près 250 mètres de dénivelé. Toujours un départ à 19h. Pour les adultes, ce sera un deuxième entraînement. régions vallonnées, on va dire, avec des parcours assez connus sur Morgin, avec le traditionnel tour du petit lac au pas de Morgin, et puis après on redescendra à travers les maisons pour finir au centre sportif.
Monsieur est un connaisseur.
Je l'ai couru quelques fois, en effet, pas toujours sur le beau temps, mais voilà, on touche du bois pour toutes les étapes.
On est bien d'accord. Et là, c'est le BBC Trois Torrents qui nous a concocté ce parcours.
C'est ça, c'est une nouvelle société qui se lance dans l'organisation. On a fait trois ski clubs, c'était le moment de changer. Donc on est passé au basket, sportif au salle, mais je pense qu'ils seront tout à fait aptes à nous organiser une très belle étape.
Et si ça se trouve, ils vont peut-être même courir avec vous ?
J'ai déjà reçu des demandes du club pour inscrire des écoliers. Donc, il y en aura bien quelques-uns qui vont courir du BBC, en effet.
Ouais, et là, bah, comme d'hab, il y a les minis, il y a les écoliers, il y a les adultes.
C'est ça. Pour les écoliers, ce sera 3,5 km avec 60 mètres de dénivelé. Et les minis, ben, eux, ce sera 1 km. Il y a quand même un petit peu de montée parce que Morgin, c'est pas tout plat. Donc, il y a juste 20 mètres de dénivelé. Donc, ça va aller.
Ça va aller. Ben, merci. La semaine prochaine, on retourne en plaine. C'est à Aigle que nous allons pouvoir tester le Tour du Chablais.
C'est ça. À la semaine prochaine.
Les bons plans
sur Radio Chablais.
Ah, voilà.
Radio Chablais, programme de nuit. Suis.
Voici les titres du journal.
Les récentes chutes de température mettent les nerfs des agriculteurs à rude épreuve. Exemple à Colombey-Murat et à Viona avec deux entreprises familiales qui n'ont pas connu les mêmes conséquences. La commune de Montreux a lancé une démarche participative en vue de la révision du plan d'affectation communale. 16 femmes et 16 hommes de 8 générations ont été retenus. Aujourd'hui, c'est la journée contre le bruit. L'objectif est de sensibiliser la population mais aussi les autorités à cette problématique qui peut entraîner des maladies, même un diabète de type 2. En football, le FC Martigny Sport et David Orlando ne prolongeront pas leur entente au-delà de cette saison. Le club valaisan de 2e Ligue Inter et l'entraîneur Montaison a annoncé hier que leur chemin se séparait. Et en course à pied, place à la 4e étape du Tour du Chablais ce soir à Morgin. Les mollets risquent de chauffer.
Pour la météo, un temps seulement en partie ensoleillé pour cet après-midi avec quelques averses pour demain. Un peu plus de soleil promis par Météo Suisse. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le gel et les températures négatives de ces derniers jours mettent les nerfs des agriculteurs chablaisiens à rude épreuve. Habituellement épargnés par ces épisodes de froid récurrents à cette période, la région n'y échappe pas cette année. À Colombey-Murat, par exemple, l'entreprise Lathion-Rupen est sur le qui-vive. D'autant plus que la société valaisanne a lancé cette année une nouvelle production de myrtilles. Des myrtilles qui, dès la première année, ont dû bénéficier d'une attention particulière pour lutter contre le gel. Les explications de Pascal Lathion, co-directeur de l'entreprise.
On n'est pas une région à un sujet de trop aux cultures à gel dans le Chablais, comparé avec l'arboriculture. Alors oui, après, il y a des arboriculteurs comme Bertrand Chezeau à Aigle, avec les pommiers. Alors, ils sont presque chaque année sujets à ces luttes contre le gel. Mais nous, on a beaucoup de grandes cultures. Alors, ça résiste quand même, à part les semis de betteraves, ceux qui vont se mettre peut-être trop vite une année et qui pourraient geler, mais c'est rare qu'on ait des dégâts dans le Chablais. On a quand même le climat du lac qui tempère mieux la température que dans les centrales, où ça descend plus vite le froid. Ici, parce qu'on avait fait de la culture de myrtille, qui est nouveau pour nous, alors elle avait ses 15 jours d'avance, comme je vous ai dit, parce que normalement elle tient jusqu'à moins 4 quand elle est en fleurs. Puis là, elle est passée fleurs, même déjà des fruits formés. Alors là, c'est très sensible. Alors, on s'est équipé de bougies pour lutter contre le gel.
Si à Colombey-Murat, le pire a pu être évité, ce n'est pas le cas de la cave Vionnerou de Beltrami et fils, qui n'a pu que constater une perte sèche d'une partie de sa prochaine récolte. Pas équipée en arrosage, l'entreprise familiale ne pouvait compter que sur les bougies pour lutter contre le gel. Problème impossible d'en trouver à cette période, comme le précise Nicolas Beltrami.
Exactement, c'est toujours un problème quand tout le secteur, on dira arboricole, viticole, lutte contre le gel avec ses bougies. Les stocks diminuent très rapidement chez les fournisseurs et à partir d'un certain point, il n'y a plus de stocks disponibles, donc plus la possibilité d'acheter ces bougies pour lutter contre le gel. Ça remet un peu en question pour les années futures. Est-ce qu'il faudrait avoir un stock de secours pour certaines parcelles qui sont critiques dans les fonds de collines ou ce genre d'endroits ?
De l'autre côté du Rhône, les températures basses ont également eu des conséquences. À Aulon, certains pieds de vigne n'ont pas supporté le gel. Si pour l'heure, impossible de chiffrer toutes ces pertes, les prochaines récoltes en septembre permettront de connaître l'ampleur des dégâts. Un sujet de Ludovic Turin.
350 citoyens ont répondu présents pour participer aux ateliers du plan d'affectation communale de Montreux.
Ils seront finalement 16 femmes et 16 hommes à se joindre à cette démarche participative concernant l'utilisation du sol de la commune. Ils se réuniront dès le mois de mai pour 4 ateliers thématiques. Caleb Walter, municipal montreusien chargé de l'urbanisme.
Le but, il est de pouvoir aussi confronter les avis, mais de garantir que chacun ait sa place. Donc en plus des représentants, on va dire, de la population, on aura des représentants d'associations, il y aura des dialogues pour faire ressortir justement les enjeux, là où il y a un consensus, là où il n'y en a pas, sur différents thèmes qui se veulent les plus concrets possibles. Ça commencera déjà par un retour sur le résultat du questionnaire, et puis après justement des sujets qui vont de l'urbanisation, de comment est-ce qu'on veut la vie des quartiers et tout. Donc des questions qui seront assez à la fois concrètes, parce que c'est notre territoire, c'est là où on habite, et aussi des fois un peu plus théorique.
Impliquer la population dans le travail du plan d'affectation va prendre du temps, mais c'est une volonté assumée par la municipalité. Caleb Walter.
On a décidé en municipalité d'avancer à un rythme que certains trouvent trop lent, mais on espère un rythme qui permet justement de valider chaque étape et puis d'aller dans une direction qui soit celle qui est souhaitée par la population. On met les chances de notre côté en amont pour espérer que plus tard ça aille plus vite.
Les autorités espèrent pouvoir soumettre un projet à l'enquête publique d'ici un peu plus de 2 ans, un sujet signé Martine Vistiner. Les activités de la justice vaudoise ont augmenté l'an dernier. Près de 59 000 nouvelles causes ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2022. Les offices des poursuites et des faillites ont également reçu un nombre plus important de dossiers, alors que les affaires introduites devant l'office cantonal du registre du commerce ont légèrement diminué. Par ailleurs, la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure a débuté, notamment celle portant sur le renforcement de la protection de l'enfant. Les Suisses diraient oui à l'initiative d'allègement des primes, de même qu'à celle pour un frein au coût soumise au peuple le 9 juin, selon un sondage. Près de 2/3 des Helvètes approuveraient également la loi sur l'énergie. C'est ce que montre le premier sondage de Tamedia 20 Minuten publié aujourd'hui. La part relativement élevée de personnes ayant répondu plutôt oui pour les deux initiatives relatives aux primes montre que la formation de l'opinion n'est pas encore terminée, précisent les auteurs. En général, le taux d'approbation baisse au cours de la campagne.
Passage d'un hélicoptère, marteau-piqueur, accélération d'une voiture.
Aujourd'hui, c'est la journée contre le bruit. L'objectif est de sensibiliser la population, mais aussi les autorités à cette problématique. Le thème de cette année est la planification des espaces extérieurs. La qualité sonore des lieux publics peut être optimisée, par exemple en choisissant des matériaux qui absorbent les sons. L'environnement sonore est très important dans l'espace public, mais surtout à la maison, car une exposition régulière à un certain niveau de bruit peut causer des problèmes de santé. Les précisions de Marc Brink, chercheur à la division bruit de l'Office fédéral de l'environnement.
Le bruit, on peut dire, c'est un facteur de stress. Ça peut stimuler les systèmes nerveux autonomes. Cela normalement met à une augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Et à long terme, ce stress peut provoquer des cardiopathies ischémiques ou même des infarctus du myocarde. En Suisse, on a estimé environ 2500 cas de diabète dû au bruit routier. Le mécanisme que le système d'insuline est perturbé par des réactions de stress dues au bruit et ça provoque une augmentation de glucose dans le sang. Et si cela devient chronique, on parle de diabète de type 2.
Des propos recueillis par Marie Vuillemier, notre correspondante à Berne. En Suisse, environ 1 million de personnes sont concernées par le bruit gênant et nuisible, soit une personne sur 7. David Orlando et le FC Martigny Sport, c'est bientôt terminé. Après 3 saisons communes, le club valaisan de 2e Ligue Inter et l'entraîneur Montezan ont décidé de se séparer à la fin du présent exercice d'un commun accord. Mais ce n'est pas pour autant que le coach n'a pas d'objectif pour cette fin de championnat, David Orlando.
Il me reste 2 mois à Martigny, mais je pense que c'est les 2 mois les plus importants de ma carrière à Martigny. Il nous reste 8 matchs pour essayer de retrouver cette première ligue. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà au coin de ma tête à partir du début de la saison, quand le comité m'avait refait confiance. Je m'étais dit un challenge personnel et après avec mon groupe que voilà, j'allais tout mettre en œuvre pour essayer de remonter en première ligue. Et puis, il n'y aurait pas une meilleure fin possible que de quitter le club sur une promotion.
Quand on sait qu'on va partir à la fin de la saison, ça peut changer quelque chose dans la tête ou pas du tout ?
Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, de mon côté, pas du tout. L'objectif, il est clair. Je suis motivé plus que jamais à atteindre ce challenge. Et je répète, c'est une pensée que j'avais depuis le début de la saison. J'aimerais bien quitter le club et arrêter à Martigny sur une promotion.
À 8 journées de la fin, les Octoduriens occupent le deuxième rang du classement à 14 points du leader Lancy. Ils joueront ce soir à l'extérieur face au CS Romontois. Un sujet de Thierry Nicolet.
Le Tour du Chablais prendra de l'altitude ce soir.
Les coureuses et coureurs auront droit à la première étape de montagne de l'édition 2024 à Morgin. Pour le moment, ils sont plus de 800 adultes inscrits. Les sportifs auront droit à un parcours corsé de 7,4 km agrémenté de 255 mètres de dénivelé positif. C'est le BBC Trotteran qui organise cette étape par l'intermédiaire du responsable course Christophe Blanchu. La tâche de ce dernier n'a pas été rendue facile ces derniers jours en raison de divers aléas. Christophe Blanchu.
Oui, il y a la composante qu'ils annoncent pas très chaud demain, entre moins 3 et 3 degrés à Morgin. Il y a la composante que le tunnel de la Vallée est fermé, qu'il y a aussi des travaux à la sortie de Trois-Torrents. Et on a aussi eu la composante que suite aux inondations du mois de novembre, une partie du parcours a été recouverte de boue. Je remercie la commune de Trois-Torrents qui s'est engagée à dégager le chemin. Et ces derniers jours, il y a eu la neige. Mais apparemment, elle ne va pas nous poser trop de problèmes.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le premier départ sera donné à 18h pour les minis. Les écoliers suivront à 18h20, avant les adultes à 19h.
En hockey sur glace, le LHC se rapproche de l'histoire.
Les Lions de Malais ne se laissent pas faire à la Vaudoise Arena. Les Lausannois se sont largement imposés 5-1-2 face à Zurich hier soir. Ils reviennent à 2-2 dans la série. C'est Andrea Gloser qui a ouvert le score à la 14e minute. À partir de là, Lausanne a mené jusqu'à la fin du match. Une victoire qui relance cette finale. La réaction de Jason Fuchs, attaquant du LHC.
Ça fait du bien, la manière était là. On savait qu'on en était capable et puis voilà, je pense qu'on a très bien géré les moments clés. Puis voilà, maintenant on est 2-2. Ça va être une mini-série maintenant et il va falloir aller gratter cette victoire à Zurich. Mais voilà, l'objectif c'est de faire le match qu'on a fait ce soir à Zurich et je suis sûr à 100% qu'on peut le faire.
Des propos recueillis par notre consoeur de LFM, Alessia Meroula. Lausanne doit maintenant impérativement faire le break à Zurich. Les Lions auront une chance de le faire demain. Et à noter qu'il y aura donc un acte 6 à la Vaudoise Arena. Ce sera samedi. Les billets ont été mis en vente ce matin déjà.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
En large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Vincent Bailly.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'AVO Patrimoine Mondial, cette association qui protège comme un trésor ce site de l'AVO et son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Alors, d'habitude, je commence les entretiens par pourquoi on est là. On est au cœur de l'AVO, c'est normal, on est dans les bâtiments de l'association. Il faut dire, on n'a pas de bol, c'est le jour, cette émission est enregistrée, le pire jour de ce début de printemps. Il fait moche, il fait froid, il pleut, c'est pas terrible.
Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes dans la maison de la Fondation Butin de l'OS, qui est donc une maison du XVIe siècle, qui est elle aussi inscrite à l'inventaire fédéral des bâtiments d'importance. Et on a la chance d'être locataire de cet espace et c'est une grande chance parce que la maison est absolument incroyable. On est au cœur du patrimoine dans un site patrimonial, donc il y a une vraie cohérence à y être. Quant à la météo, ben oui, des fois on parle tout le temps des trois soleils de l'AVO, ben aujourd'hui il n'y en a aucun. Oui, ça fait partie.
On va en parler de ces trois soleils. Hein.
Mais voilà.
Vous un peu d'abord, Vincent Bailly, vous avez pris la tête de cette association il y a 3 ans et avant ça, plein d'expériences, notamment dans le tourisme, et j'ai vu à Chablais Agglo.
Alors, pas directement à Chablais Agglo, mais c'est un partenaire avec lequel on a travaillé. Alors, j'ai fait mon travail de master en géographie à l'Université de Lausanne sur l'agglomération Montéaigle, effectivement, qui était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que c'est un territoire qui n'est pas de facto compréhensible comme une agglomération en tant que telle, et le sujet a été très intéressant. Donc, j'ai fait à l'université la géographie, le journalisme et des statistiques appliquées aux sciences humaines.
Bon, vous avez bien connu, vous avez dû aller dans le Chablais, du coup.
Oui, alors pour l'occasion, je l'ai parcouru de long en large et en travers pour effectivement bien connaître un petit peu son articulation.
Quand on vit et qu'on défend un site vitivini comme l'AVO, on va regarder un peu ce que font les copains dans les autres domaines du canton et même au-delà.
On va toujours regarder autre part, et dans toute la diversité des vignobles, que ce soit des sites extrêmement protégés comme d'autres vignobles inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
C'est le cas de la Bourgogne, par exemple.
C'est le cas de la Bourgogne. On a également été à Bordeaux, il y a la juridiction de Saint-Émilion qui est également inscrite. On est en contact aussi avec le Haut-Douro, on est en contact avec d'autres vignobles internationaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres vignobles vaudois et suisses qui sont des partenaires. J'ai toujours le plaisir de rappeler que le patrimoine vitivinicole, il n'est pas uniquement lié à une inscription au patrimoine mondial, il est dans l'ADN en Suisse. Et c'est quelque chose qu'on doit mieux faire connaître encore.
Bon, ce vignoble, hein, incroyable. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand même un clin d'œil. C'est les moines. Hein, c'est les moines. Alors, il y a une phrase de. On va d'abord commencer par ça. Il y a une phrase de Chapa. Hein, non, pas de Chapa. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a une phrase qui dit que c'est Dieu qui a fait
le veau.
C'est Ramu, voilà. Ouais. Louis Ferdinand Ramu qui a fait cette phrase merveilleuse. Vous allez me la citer parce que vous la savez certainement par cœur.
Bah, Dieu a fait la pente, voilà. Et nous on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Et effectivement, c'est une phrase qu'on utilise encore beaucoup parce qu'il est rare de pouvoir résumer aussi facilement ce que représente le vignoble de Lavaux. C'est un paysage naturel avant tout, le fruit du travail du glacier du Rhône qu'on appelait
Dieu à l'époque.
C'est la version glaciale de Dieu, effectivement. Et ensuite, toute la partie culturelle et vivante qui a émergé par le travail des hommes et effectivement des moines au tout début, puis ensuite des grands domaines viticoles principalement de la ville de Lausanne, puis également du canton de Fribourg avec les Faverges, et gentiment s'est créée cette colonne vertébrale des vignerons en caveur à Lavaux qui font réellement partie de l'ADN du site.
Alors ce site en terrasse, hein, là pour le coup c'est vraiment le travail de l'homme, la pente est parfois très rude, il y a du 100% d'ailleurs à certains endroits, il y a de la falaise. Hein.
Exactement.
Alors là, il n'y a pas de vigne, évidemment, mais il y a du 45%, du 50%, c'est assez.
Non, 100% des alais, c'est sûr. Ils sont attestés, donc il n'y a pas de problème. Que ce soit sur la périphérie du vignoble, quand on est sur des pentes comme à Villette ou sur certains pans à Saint-Saphorin, on est un peu moins en pente, mais en des alais, on est clairement à 100%. Et effectivement, c'est 10 000 terrasses, c'est 450 km de murs patrimoniaux. On parle assez volontiers de la forteresse de Lavaux. Si vous promenez sur la route du lac entre Cuy et Riva, par exemple, et que vous regardez sur le haut, vous voyez plus de murs que de vignes. Mmh. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant de se dire, oui, c'est d'abord une construction avant d'être un espace naturel.
Bon, le travail des hommes et des femmes, le travail du temps, hein, avec les moines au départ, c'est le cas aussi d'ailleurs de certains vignobles du Chablais, hein, les mêmes d'ailleurs, je crois, hein, à Yvonne notamment. Ouais. Et il y a cette histoire-là, c'est l'histoire longue, et l'histoire plus récente, c'est cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Comment ça s'est fait déjà ?
Ben, ça s'est fait par des idées, une envie de mieux faire reconnaître ce vignoble. Il faut savoir que la reconnaissance de Lavaux, elle date d'avant l'inscription. Hein. Le site est inscrit sur l'inventaire fédéral des paysages, monuments et monuments suisses, donc depuis 1977. Donc ça fait plus de 50 ans maintenant que le site est réellement inscrit sur un inventaire d'importance. Par contre, vous connaissez sûrement, il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été prises par des particuliers pour préserver le site.
Par des votations populaires.
Donc les votations populaires. Ouais. Donc il y a eu Sauver Lavaux qui s'est activé à faire trois initiatives, puis le dernier, le contre-projet en 2014, qui a amené justement à débloquer ce qu'on découvre ces derniers temps, le PAC, là, donc ce plan d'affectation cantonale, qui est la dernière strate de protection à l'heure actuelle du site. Autre temps, effectivement, il y a eu l'inscription du site sur le patrimoine, au patrimoine mondial. Là, c'est plutôt des hommes qui se sont mis autour de la table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on a un site extraordinaire, il mérite d'avoir une reconnaissance à l'international. Et donc, l'inscription du site sur le patrimoine mondial a été portée principalement par trois personnes, messieurs Bovy, Dresco et Valoton, qui se sont attachés à monter un dossier d'abord pour placer le site sur la liste indicative qui est portée par l'Office de la Culture. Puis ensuite, l'Office de la Culture analyse les différentes propositions et a décidé de soutenir celle de Lavaux. Un dossier de candidature a donc été monté et déposé en 2016 à l'UNESCO.
Ouais, on va pas aller dans le détail des choses, mais on voit que c'est la même chose maintenant avec tous les dossiers du patrimoine immatériel. Hein. Ça passe par le pays et c'est ensuite le pays qui propose aux Nations Unies et donc à cette agence l'UNESCO. Bon, il y a quelque chose, il y a une phrase qui me marque dans cette affaire de patrimoine mondial et de cette inscription à l'UNESCO, c'est on n'est pas protégé parce que c'est beau. C'est pas l'esthétique qui compte, parce que l'esthétique c'est subjectif, hein. C'est un truc qui peut être beau pour quelqu'un, peut pas l'être pour quelqu'un d'autre, pour une autre culture, etc. C'est pas ça. C'est quoi?
C'est pas ça. Effectivement, c'est un des enjeux et une chance, c'est que Lavaux est magnifique, mais l'esthétique, enfin, l'inscription d'un site au patrimoine mondial s'appuie sur ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de ce site. C'est donc des caractéristiques qui transcendent les profils sociodémographiques, les origines, les attentes et les lectures des personnes. Et en fin de compte, il y a un certain nombre de critères qui ont été identifiés, de valeur, donc cette valeur universelle, et l'esthétique n'y figure pas. Ce qui y figure, par contre, effectivement, c'est l'élément structurant le vignoble. C'est un vignoble, l'un des plus grands de Suisse,